Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Je voudrais que nous demeurions dans cette attitude de prière avant de nous tourner vers la parole de Dieu, avant de nous asseoir très humblement et avec crainte et révérence aux pieds du Seigneur pour qu'il puisse nous en sourire. Je voudrais que chacun de nous garde un moment de silence, un silence qui se focalise sur la personne du Christ, pour ne pas se laisser distraire par telle ou telle autre pensée. Nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur, nous sommes venus pour entrer dans la présence de celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes venus pour lui apporter notre reconnaissance, notre adoration, notre louange, car il en est digne. Oui, nous sommes venus pour accueillir avec foi, avec confiance, la présence de celui qui, par amour pour nous, n'a pas hésité un seul instant, le moment venu, de quitter son trône de gloire, d'entrer dans l'espace et dans le temps, et de venir nous chercher là où nous étions, dans la perdition, là où nous étions sous la colère divine, oui, dans cet état abominable et horrible dans lequel nous nous trouvions autrefois. Ce Jésus-là est bien présent parmi nous. Réalisons le privilège qui est le nôtre d'avoir invoqué ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. En effet, la parole, l'Évangile déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, il n'y a de délivrance en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom du Fils de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver une fois de plus, Seigneur, autour de toi, à l'occasion de ce séminaire consacré non seulement au bien fondé de l'annonce et de la proclamation de ton Évangile, mais aussi séminaire qui nous montre une fois de plus le caractère impératif et urgent d'annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, merci d'être présent dans cette deuxième soirée. Hier, tu nous as fait beaucoup de bien. Seigneur, tu nous as parlé. Nous sommes repartis avec des cœurs enrichis, non seulement par ta présence, mais aussi par ta parole. Et ce soir, tu nous ramènes de nouveau dans ta maison, Seigneur, pour que nous puissions, une fois de plus, être enseignés par toi, recevoir une fois de plus ta parole, nous laisser embraser par toi, nous laisser, ô Dieu, visiter par ton Saint-Esprit au travers de ce séminaire. Merci pour ce moment que nous venons de consacrer, Seigneur, à la louange et à l'adoration. Nous sommes convaincus que nos chants et nos prières, nous sommes convaincus que l'expression de nos sentiments et les paroles de nos bouches sont montées tout droit vers toi comme un parfum de bonne odeur. Tu as agréé ce moment et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout. Nous voulons maintenant te demander, Seigneur, de nous parler. Fais-nous du bien, enseigne-nous une fois de plus. Seigneur, ce que tu as à nous communiquer en ce qui concerne, Seigneur, ces thèmes ô combien important, ô combien nécessaire que celui de prêcher la parole à toute la création. Merci, Maître. Bénis ton serviteur, oins-le de ton autorité. Seigneur, sois devant lui, sois derrière lui, sois à sa gauche, à sa droite, sois au-dessus de lui, afin qu'il puisse proclamer ta parole avec aisance, avec facilité de langage, mais avec conviction, mais avec foi. Et que, Seigneur, cet enseignement puisse porter du fruit pour ta gloire. Merci, Jésus. Amen. Et gloire à Dieu. Acclamons son nom. Que Dieu soit béni. Alléluia. Avant donc d'attirer votre attention sur notre enseignement de ce soir, permettez-moi de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième soirée de notre séminaire consacré à l'impératif, à la nécessité absolue d'annoncer l'Évangile du Christ à tout homme, à tout être humain. Que le Seigneur vous bénisse, et non seulement vous qui êtes ici, à la borne, mais également à vous tous qui nous suivez sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Nous vous saluons et nous vous remercions d'être en communion avec nous. Je voudrais demander à toute l'assistance de se joindre à moi pour vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui nous suivez depuis Jean-Blou, vous tous qui nous suivez depuis la France, depuis la Belgique, d'un peu partout à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui est dans la joie ce soir? Gloire à Dieu. Il y a de quoi être dans la joie ce soir, puisque nous avons une fois de plus ce privilège d'entrer dans la présence du roi des rois, d'entrer dans la présence du Seigneur des Seigneurs et de lui tendre une oreille attentive afin qu'il nous parle, alléluia, afin qu'il nous enseigne. Que Dieu soit béni. L'évangélisation, un impératif divin, une nécessité absolue. En d'autres mots, si nous ne prêchons pas l'Évangile, si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle telle que les apôtres nous l'ont laissée, telle que le Seigneur nous le demande, eh bien nous priverions le monde d'une grande bénédiction. Amen. Alléluia. Oh là 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 là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que le ciel vibre, car croyez-moi, le ciel est avec nous. Le thème qui nous préoccupe, le thème qui nous accompagne depuis hier, est un thème, mes amis, qui préoccupe le ciel. Et à chaque fois que sur terre un homme ou une femme parle de ce thème, croyez-moi, le ciel tout entier bouge. Car Jésus est venu sur cette terre pour accomplir la mission qu'il avait reçue du Père. Et cette mission se trouve au cœur de son évangile. Amen. Et la soirée d'hier, c'est-à-dire hier qui était la première soirée de notre séminaire, j'ai attiré votre attention sur l'objectif poursuivi par et au travers de ce séminaire. C'est de montrer à chacun de nous, à partir de trois questions importantes et trois réponses essentielles à ces questions, comment chacun de nous peut réaliser, peut comprendre, mes amis, la nécessité absolue de prêcher l'évangile du Christ à toute la création, alléluia. Trois questions autour desquelles s'articule tout notre séminaire. Trois questions pour faire comprendre à chacun de nous, mes amis, le bien fondé, la nécessité, l'impératif d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ à toute l'humanité. Trois questions. Première question, c'est quoi l'évangile? Nous ne pouvons pas, mes amis, être motivés à proclamer cet évangile si nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire, en quoi l'évangile du Christ est la bonne nouvelle par excellence. La deuxième question, c'est pourquoi devons-nous prêcher l'évangile? C'est donc à cette question que nous allons répondre aujourd'hui, et en nous posant cette question du pourquoi, nous voulons examiner différentes raisons pour lesquelles vous et moi, nous tous qui avons reçu Jésus, pourquoi nous devons absolument prêcher l'évangile à toute la création. Et enfin, la troisième question, qui sera donc traitée demain, concerne le comment d'évangéliser, comment évangéliser. C'est-à-dire comment annoncer la parole de Dieu de manière efficace. Comment amener les âmes à rencontrer Jésus au travers de l'annonce, de la proclamation de l'évangile du Christ. Alléluia. Voilà donc trois questions autour desquelles s'articule tout notre séminaire. Et la soirée d'hier nous a donc permis de répondre, autant que se faire, à la première question, question en rapport avec la définition de l'évangile. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile avec pertinence. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile avec enthousiasme. Nous ne pouvons pas, mes amis, nous consacrer corps, âme et esprit à l'annonce et à la proclamation de l'Évangile si nous ne comprenons pas le bien fondé, le contenu, l'essence, mes amis, la substance de l'Évangile. Alléluia. Et nous l'avons vu hier, très brièvement, qu'au cœur de l'Évangile du Christ, de cet Évangile qui est la bonne nouvelle, il y a une personne, et l'œuvre que cette personne a accomplie à la croix. On ne peut pas parler de l'Évangile sans parler de la personne de Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler de la personne de Jésus-Christ sans parler de l'œuvre qu'il est venu accomplir sur cette terre, de la mission qu'il avait reçue de la part de son Père, de venir sur cette terre pour faire la rédemption, l'expiation des péchés de l'humanité tout entière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est venu non pas pour passer quelques jours agréables sur cette terre. Il n'est pas venu en villégiature, pas du tout. Il est venu pour accomplir une mission reçue de la part de son Père, sauver l'humanité. Et il a fait par son œuvre à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc l'Évangile, c'est une personne. L'Évangile, c'est l'œuvre que la personne a accomplie. En cela, l'Évangile reste la bonne nouvelle. Car c'est le seul message qui montre à l'homme, qui apporte à l'homme cette bonne nouvelle, que le ciel est descendu sur terre, non pas au travers d'une religion, non pas au travers d'un prophète, non pas au travers de qui que ce soit, d'un ange ou d'un archange, pas du tout. Le ciel est descendu sur terre, le royaume de Dieu est descendu sur terre dans la personne du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Sa proclamation est une bonne nouvelle, nous l'avons vu, en ce que l'Évangile annonce la venue sur terre du Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, et de son œuvre à la croix, à savoir sa souffrance, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Donc les deux sont indissociables. N'annoncez pas que Jésus qui fait ceci ou cela. Annoncez Jésus ce qu'il est, le Fils de Dieu. Dieu fait chair, le véritable, l'unique Dieu. Mais annoncez aussi sa venue dans un corps semblable au nôtre et sa mort en croix pour le salut de l'humanité. Alléluia. Voilà donc, mes amis, la bonne nouvelle que nous devons annoncer. La bonne nouvelle au cœur de laquelle se trouve une personne et son œuvre, Jésus de Nazareth. Voilà l'Évangile que les apôtres ont prêché. Voilà le mandat qu'ils ont reçu du Seigneur. Et au nom de ce mandat, ils sont partis un peu partout à travers le monde pour annoncer l'Évangile du Christ. Prêcher une personne, et non pas pour apporter une nouvelle religion, non pas pour apporter un nouveau système de pensée, un système philosophique ou autre, pas du tout, mais pour mettre en contact avec le pécheur, celui qui leur avait donné ce mandat. Alléluia, et gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques raisons fondamentales, quelques raisons essentielles pour lesquelles vous et moi, car l'annonce et la proclamation de l'Évangile n'est pas réservée à une élite dans le corps du Christ. C'est le travail de chacun de nous. Alléluia. Il nous demande, il nous appelle à être des témoins de sa grâce, des témoins de cette vie nouvelle que nous avons expérimentée. N'a-t-il pas dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Nous devons briller de sa lumière. Nous devons resplendir de sa gloire. Oui. Les raisons pour lesquelles nous devons prêcher, proclamer l'Évangile. Nous allons lire un passage dans l'Évangile de Matthieu, le dernier chapitre, à savoir le chapitre 28, où nous retrouvons une fois de plus cet ordre suprême, ce mandat extraordinaire, suprême, que le Seigneur laisse à ses disciples. Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Il commence par les rassurer. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir. Quelle assurance pour eux. Et quelle assurance pour nous. Ça veut dire que lorsque nous sommes avec Christ, rien ne peut nous arrêter. Aucun pouvoir, quelle que soit sa nature, ne peut, mes amis, essayer de nous distraire, ne peut aller à l'encontre du pouvoir suprême du Christ. Aucun pouvoir politique, financier, économique, religieux ou autre ne peut s'opposer à la puissance suprême, à la puissance surnaturelle de l'évangile du Christ. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Alors il ajoute, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh, alléluia. Je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Je voudrais souligner ici, c'est vrai que je n'avais pas prévu cela, que le baptême, le fait de faire des disciples, est la conséquence de recevoir le message de l'Évangile. Voilà comment ça s'est traduit, littéralement. Allez, faisant des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant. Voilà. Donc c'est toute une série de participes présents, dont la conséquence de la réception du message de l'Évangile. Alléluia. Allez ! Gloire au Seigneur. Les raisons fondamentales pour lesquelles l'Église de Jésus-Christ doit annoncer, doit proclamer l'Évangile à toute la création. Pourquoi devons-nous prêcher l'Évangile? C'est une question importante. Est-ce par fanatisme? Jésus, en demandant à ses disciples d'aller dans le monde entier et de prêcher cet Évangile, a-t-il voulu faire une sorte de publicité autour de sa personne? Voulait-il que sa religion, entre guillemets, soit aussi présente sur cette terre aux côtés d'autres religions? Non. Il n'a que faire de la publicité. Il vit de toute éternité. Avant que le monde soit, lui est. Oh, alléluia. Avant que tout homme vienne à l'existence, lui est. Du reste, n'est-il pas? N'est-ce pas par lui, n'est-ce pas de lui, n'est-ce pas pour lui que sont toutes choses au ciel, sur la terre et dans tout l'univers? Donc ce n'était pas pour se faire une sorte de publicité, comme c'est le cas aujourd'hui lorsque quelqu'un a son mouvement, eh bien il veut que tout le monde connaisse ce mouvement-là. On envoie les gens un peu partout pour aller répandre les enseignements du gourou, pour aller répandre... la philosophie du gourou, non, Jésus n'avait que faire de tout cela. Il y a donc tant de raisons pour lesquelles vous et moi, mes amis, quand je dis vous et moi, c'est-à-dire nous qui avons accepté le Seigneur, nous qui sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, nous qui sommes nés de nouveau en d'autres mots, les raisons pour lesquelles nous devons absolument annoncer l'Évangile. Mais avant de répondre à cette question et d'examiner très brièvement quelques raisons essentielles, fondamentales, cardinales, pour lesquelles nous devons absolument annoncer l'Évangile, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous, mes amis, sur l'instrument dont le Seigneur est appelé à se servir pour l'annonce et la proclamation de sa bonne nouvelle. Quel est l'instrument que le Seigneur a choisi? Eh bien, l'homme. Eh bien, toi. Eh bien, moi. Et en attirant notre attention là-dessus, je voudrais que chacun de nous réalise le privilège incommensurable que vous et moi, nous avons d'annoncer Jésus-Christ au monde, de partager Christ aux autres. L'homme reste l'outil par excellence dont Dieu se sert pour répandre sa bonne nouvelle. Car n'oubliez pas, évangéliser, c'est mettre Jésus en contact avec les inconvertis, n'est-ce pas? Ça veut dire que ne peut évangéliser véritablement que celui en qui Jésus vit.
Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu as beau dire de Jésus, parler de Jésus, ben c'est comme un démon qui parlerait de Jésus. Les démons savent. D'ailleurs, les premiers à confesser, à reconnaître qui était Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre, étaient les démons. Hein. Nous savons qui tu es. Oh, alléluia. Donc, André pouvait dire, et ils ont ajouté, tu es le Saint, tu es le Fils, tu es celui qui est venu pour nous perdre. Non seulement ils savent qui est Jésus, mais ils savent aussi qu'il est venu pour les perdre. Il est venu pour les anéantir. Il est venu pour les écraser. Donc, ne peut véritablement annoncer la bonne nouvelle que celui qui l'a expérimenté. Vous comprenez pourquoi certains lisent les évangiles, mais ça reste des sermons creux, vides, oui ou non. On prend les mêmes évangiles, on les lit, mais il n'y a rien qui se passe. Les mêmes gens qui entendent ce même message, aussitôt qu'ils sortent des offices, les voilà qui se mettent à faire le mal, à accomplir le péché. Donc ça montre qu'une simple lecture, qu'un simple fait de lire les évangiles par quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu, eh bien cela ne suffit pas. Il faut avoir reçu la vie de Dieu pour enfin la transmettre. Oh, alléluia. Donc tu dois toi-même être avec Jésus. Que Dieu soit béni. L'homme, malgré son indignité, puisque l'homme, tout son péché, n'est-ce pas? L'homme, malgré ses limites, malgré sa faiblesse, malgré ses imperfections, reste néanmoins l'outil par excellence dont Dieu s'insère pour attirer d'autres hommes à lui. Je parle de l'homme converti, de l'homme qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Pour vous montrer le privilège qui est donc le nôtre, d'annoncer l'évangile aux autres, je voudrais vous raconter une petite histoire que nous trouvons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les 6 premiers versets. C'est l'histoire d'un officier romain, un étranger, mais qui avait fini par adhérer à la religion juive, qui avait entendu parler d'Adonai, de Yahweh, le seul Dieu, d'Élohim, le Dieu d'Abraham. Et il avait fini par partager des convictions juives. Un homme de bien, un homme qui avait une très bonne réputation, un très bon témoignage. Cet homme-là faisait beaucoup d'aumônes. Cet homme était très généreux vis-à-vis de la communauté juive. Cet homme priait, c'était un craignant Dieu. Puisque dans le judaïsme, il y avait plusieurs catégories de gens. Vous aviez les juifs eux-mêmes, les descendants de Jacob, les israélites, car ne confondez pas israéliens et israélites. N'importe qui peut devenir israélien, mais n'importe qui ne peut pas être israélite. Est israélite celui qui descend de Jacob, celui qui a le sang de Jacob, les juifs de sang. Voyez-vous? Mais un Israélien, n'importe qui peut le devenir. Vous vivez en Israël, au bout d'un certain nombre d'années, vous demandez la nationalité israélienne et vous pourriez l'avoir. Il y a des Israéliens qui sont d'origine africaine, qui le sont devenus. Voyez-vous? À un moment, j'étais en contact avec la communauté juive en Europe. J'avais suivi le témoignage d'un capitaine dans l'armée israélienne, qui était d'origine guinéenne. Donc n'importe qui peut devenir israélien, mais n'importe qui ne peut pas être israélite. Lui avait donc adhéré à la foi israélite. Donc vous avez le juif, vous avez les prosélytes, vous avez les craignants Dieu. Donc c'était quelques catégories dans le judaïsme. Et donc lui était un craignant Dieu. Voilà qu'un jour, cet homme est en prière. Et là, un ange lui apparaît. Un ange vient de la part du Seigneur. Et l'ange lui apporte un message. Un très bon message. Qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange le rassure. L'ange lui dit que ses prières venaient d'être entendues par les dieux des cieux. Alléluia. Et qu'en réaction, en réponse à ses prières, Dieu lui a envoyé cet ange-là.
cet ange va donc s'adresser à Corneille. Qu'est-ce qu'il lui dit, après l'avoir assuré que ses prières étaient exaucées? Eh bien, ce qui est frappant, ce que nous pouvons observer, c'est que cet ange qui apparaît à Corneille de la part du Seigneur n'a pas eu la permission ni de mentionner le nom de Jésus, ni de prêcher le salut en son nom. Tout ce qu'il a fait, il a dit à Corneille, il lui a dit ceci au verset 5, « Envoie maintenant des hommes à Jaffa ou à Joppé, c'est la même chose, et fais venir un certain Simon surnommé Pierre. » C'est tout. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, mais l'ange pouvait aussi lui dire pourquoi Pierre devait venir, oui ou non? Est-ce que les anges savent qui est Jésus? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Oui, mais tous les anges, c'est lui qui les a créés. Les anges sont là pour servir à sa gloire. C'est pourquoi c'est une idolâtrie mortifère que d'adorer les anges ou les archanges. Un seul est digne. C'est celui qui est assis sur le trône. C'est celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le fils du Dieu vivant, celui par qui nous avons ce souffle de vie. Lui seul est digne d'être adoré. Alors si dans ta religion, on te pousse à adorer les anges, eh bien sache que ta religion te pousse à la mort. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin d'ange. Maintenant, si le Seigneur m'en envoie un, ça ne sera pas pour que je l'adore, mais pour que cet ange accomplisse le message reçu de la part de Dieu. Ils sont donc à notre service. Oh, alléluia. Alors, gare à vous autres qui adorez les anges, qui cherchez à entrer en contact avec les anges. C'est quand même terrible. C'est comme un homme, en plein jour ici chez nous, à midi où le soleil est là, brûle dans toute sa puissance, un homme chercherait à avoir une petite lampe tempête pour s'éclairer. Dites-moi, vous trouveriez normal? Vous diriez, mais cet homme est malade. Cet homme doit avoir perdu un plot dans sa tête. Cet homme, quelque part, infusible, doit avoir sauté. Oui ou non? Parce que le soleil est là. Tu vas aller chercher cette petite lampe tempête. Pourquoi? Le soleil t'éclaire. Même plus que t'éclairer, le soleil te réchauffe. Il te communique la vitamine D dont tu as besoin. Alors pourquoi chercher cette petite lampe tempête polluante? Jésus. L'ange, cette créature puissante, venue des cieux, venu, mes amis, du royaume de Dieu, porteur d'un message, n'a pas pu prononcer le nom qui est au-dessus de tout autre nom. N'a pas pu annoncer à Pierre ce qu'il devait faire pour se convertir. Ce privilège a été réservé à l'apôtre Pierre. En d'autres mots, cet ange puissant, élevé en dignité, a dû s'incliner devant le privilège réservé à qui? À Pierre. Mes amis, les anges feraient mieux que nous. Si un ange descendait, le Seigneur envoyait un ange ici à Kinshasa, prêchait l'évangile, toute la ville partirait. Mais ce n'est pas à un ange, à une créature du ciel qu'est réservé ce privilège. C'est à l'homme, l'homme pécheur mais sauvé par grâce. C'est à cet homme-là que le Seigneur a donné les clés du royaume. Pour ouvrir, afin que tout pécheur puisse entrer dans le royaume. Gloire à Dieu. Donc voyez-vous, mes amis, tout ce que l'ange a pu dire, a dit, mon cher ami, envoie des gens à Jaffa, chez un certain Simon le croyeur, pour chercher un certain Simon, surnommé Pierre. C'est ce que cet homme va faire quand Pierre reçoit le message, au même moment le Saint-Esprit le rassure. Il dit, Pierre, alors qu'il était en prière, Il reçoit cette vision, vous connaissez tout ça. Et puis, Pierre comprend que c'est le message de Dieu. Et le Saint-Esprit lui dit, descends, des hommes te cherchent. Oh, formidable. J'aime ce passage. Le Saint-Esprit n'a pas dit, les gens me cherchent. Vous voyez, quelquefois, nous faisons preuve d'une fausse humilité. Ah, c'est pas moi. Je ne suis qu'une chenille. Voyez, Dieu a dit à Pierre, c'est toi qu'on cherche. Parce que le Saint-Esprit savait que ce n'est que par un homme sauvé par grâce, un homme qui a expérimenté la rédemption en Christ, un homme qui a été pardonné, ce n'est que par un homme pareil que le message de l'Évangile peut être proclamé. Et quand Pierre part et qu'il arrive chez Cornée, ce dernier rassemble toute sa famille. Il avait hâte d'entendre ce message. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Quel est ce message? Même l'ange n'a pas pu me le dire. C'est quoi ce message? C'est le message qui est au-dessus de tout autre message. Réalisons ce privilège. Regarde à ta propre vie d'où tu viens. Là où le Seigneur t'a ramassé, tu n'avais aucune valeur. Tu étais là comme sur le bord d'une autoroute, rongé, gangréné par le mal. Tu n'avais aucune valeur. Quand les gens te regardaient, ils se disaient, mais qui a même pu engendrer un homme ou une femme comme celle-là? Tu n'avais rien, malheureux, pauvre, miséreux. Et puis un jour, le Samaritain par excellence s'est arrêté. Gloire à Dieu. Il t'a pris là où tu étais, blessé par la vie, humilié, mes amis, sous la malédiction. Tu dégageais, tu avais une vie qui dégageait des odeurs putrides, nauséabondes. Il t'a pris, il t'a fait lever, il t'a lavé, il t'a débarrassé de toutes ces scories, de toutes ces impuretés, de toutes ces souillures. Il t'a accordé son pardon. Il t'a délivré d'un passé horrible, terrible. Ta vie a retrouvé de la valeur. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a pris. Il t'a fait entrer dans son église, grand E, qui n'a rien à voir avec tous ces mouvements politico-religieux. L'église que lui bâtit est une église constituée des hommes et des femmes, sauvés par grâce. Oh, alléluia. Il t'a fait entrer dans son église. Et depuis, et au lieu de te laisser comme ça, il t'accorde un autre privilège, d'être un outil entre ses mains pour sauver d'autres personnes. Voyez-vous, mes amis, c'est un grand privilège. Quel privilège, quelle grâce avons-nous d'annoncer l'Évangile, d'être des outils, des instruments entre les mains du Seigneur pour le salut des autres. Vous voyez pourquoi, face à cet impératif d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, nous ne pouvons qu'obéir, nous ne pouvons qu'accepter avec humilité et avec stupeur le fait que Dieu utilise des hommes malgré leur faiblesse pour le salut des autres. Ça devrait nous amener à une attitude d'humilité. Il en a toujours été ainsi, mes amis, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Dieu a toujours utilisé l'homme, malgré son indignité, malgré ses faiblesses, malgré ses imperfections, pour être porteur de la vie de Dieu. Voyez-vous, gloire au Seigneur. Rappelez-vous, d'abord dans le Nouveau Testament, pour nous raconter l'histoire de Jésus-Christ, de sa venue sur terre, il n'a pas utilisé des anges. Voyez-vous, contrairement à certains livres, soi-disant, qui viendraient du ciel et qu'un ange aurait rédigé, tout ça, c'est faux et archi-faux, c'est une œuvre de séduction. Dieu utilise toujours l'homme. Il a utilisé quatre personnes. Quatre hommes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si vous lisez, vous étudiez la vie de ces gens, vous verrez que c'était des gens comme vous et moi. Mais Dieu les a rencontrés, les a transformés. Ensuite, il en a fait ses témoins. Quatre hommes ont été choisis par le Seigneur
pour écrire son histoire. Et non pas quatre anges. Et non pas quatre archanges qui auraient pu nous laisser des écrits plus que parfaits, n'est-ce pas?
Non, Dieu a choisi l'homme.
Quatre. Gloire au Seigneur. Nous trouvons le même modèle dans l'Ancien Testament. Il y avait quatre personnes qui portaient l'arche de l'Éternel, symbole de la présence du Dieu d'Israël. Alléluia. L'arche ne pouvait pas être portée sur le dos d'un animal. D'ailleurs, David avait fait une très mauvaise expérience. Vous vous rappelez, vous connaissez ce récit? L'arche devait être portée par des sacrificateurs. C'est le modèle que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et le même paradigme, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Alléluia. Oui, l'Évangile doit être porté par des hommes. Et les porteurs de l'Évangile, eh bien, sont des hommes et des femmes que Dieu a sauvés par grâce. Alléluia. Ce sont donc ceux-là qui doivent prêcher l'Évangile à leur génération. Les générations passent, n'est-ce pas? Mais les porteurs de l'Évangile passent. Avant-hier, c'était les apôtres, n'est-ce pas? Ils ont porté l'Évangile et puis ils sont partis. Hier, c'était les Verneau, c'était les David Wilkerson. Ils ont porté l'Évangile, ils sont partis. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile demeure. Aujourd'hui, c'est vous et moi. Et puis un jour, nous nous en irons, d'autres se lèveront, alléluia, avec le même Évangile. C'est pourquoi nous n'avons pas de raison de se dire, oui, le monde a changé, les miracles appartenaient à cette époque-là, pas aujourd'hui. Faux! C'est le même Évangile. Le même Jésus qui a marché avec Paul, qui a marché avec Pierre, qui a marché avec Jean. Le même Jésus qui a agi dans le livre des Actes des apôtres, qui a agi à travers toute l'histoire, eh bien le même qui agit encore aujourd'hui. Oh, alléluia! Il n'y a pas de raison que Jésus n'accomplisse pas les choses qu'il a accomplies dans le passé. La Bible affirme qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est parce que nous ne comprenons plus ce que c'est l'Évangile. Et nous ne savons plus comment l'annoncer, afin que cet Évangile, sa proclamation du moins, soit accompagnée par une démonstration de puissance et d'esprit. C'est ce que nous verrons demain. Alors, les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Oh, le temps file très vite. D'abord, première raison. Pourquoi devons-nous évangéliser? Eh bien, tout simplement, parce que ceci est un acte d'obéissance à l'ordre du Maître. Oh, alléluia. Nous l'avons lu. Jésus dit à ses disciples, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Allez et prêchez. Nous trouvons dans Marc 16, verset 15, on a lu ce passage hier. Allez et prêchez. Les deux verbes sont à l'impératif. Ils sont donc formulés sous forme, passez-moi un peu cette tautologie, sous forme d'un impératif, d'une nécessité absolue. En face d'un ordre qui vient surtout du roi des rois, qui nous vient du maître des temps et des circonstances, qui nous vient du créateur, nous n'avons d'autre choix que d'obéir. Donc, évangéliser est avant tout un acte d'obéissance. Et nous ne pouvons pas nous dire, chrétiens, et mener une vie de désobéissance envers le Seigneur, pas du tout. Donc, c'est un ordre. Et un ordre auquel nous devons obtempérer, absolument. Voyez-vous, c'est l'ordre suprême, c'est le mandat suprême, c'est la mission excellente, par excellence que le Seigneur a confiée à son Église. Alléluia. Cela fait partie donc de l'ADN de l'Église. L'Église se doit d'être active dans le champ du Seigneur, dans la moisson du Seigneur. Voilà pourquoi lui-même a dit la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mes amis, nous sommes dans le champ du Seigneur. Et nous devons faire entrer une grande moisson. Et pour cela, il faut annoncer, il faut proclamer l'Évangile. Parce que proclamer l'Évangile, c'est obéir à un ordre qui nous vient, non pas d'un homme, non pas d'un évêque, non pas d'un apôtre, mais ça nous vient directement du Seigneur lui-même. Alors désormais, mon frère et ma sœur, sache que si tu n'es pas témoin, si tu n'annonces pas l'Évangile, tu pèches. Tu obéis. Oh, alléluia. Voilà la première raison.
Pourquoi je dois prêcher? Parce que c'est un acte d'obéissance. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous menions une vie, eh bien, qui reflète une obéissance inconditionnelle, totale et entière à sa parole. Même si nous ne comprenons pas dans un premier temps, eh bien, faisons-lui confiance. Il sait pourquoi il nous demande de le faire. Eh bien, nous le faisons, parce que nous l'aimons. Oh, alléluia! Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Tel est le premier commandement. Alors comment peux-tu prétendre aimer le Seigneur et ne pas obéir à cet ordre suprême qu'il a laissé à l'Église? Cette Église qu'il bâtit par son Saint-Esprit au moyen de sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est un acte d'obéissance. Voilà la première raison. La deuxième raison. Nous devons prêcher l'Évangile parce que c'est une nécessité absolue. Parce que l'Évangile impose cette nécessité-là. Parce que l'état dans lequel se trouve le monde impose cette nécessité absolue. Gloire au Seigneur. Nous allons voir en quoi c'est une nécessité absolue. Nous savons tous, et la parole de Dieu est là pour nous le rappeler, mais aussi l'expérience humaine, que l'homme naît dans le péché. Nous avons tous été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes entrés dans la vie en tant que pécheurs. Il faut savoir qu'il y a une différence entre péché au singulier et péché au pluriel. Le péché, être pécheur, c'est être dans un état de totale déconnexion avec le ciel. C'est être en rupture totale avec le Créateur. C'est un état de séparation d'avec le Créateur. Et à cause du péché, à cause de cet héritage adamique, l'héritage que nous avons reçu d'Adam et Ève, qui est la conséquence, hélas, de leur désobéissance à la parole de Dieu, eh bien, l'humanité a vu le jour, à partir d'Adam et Ève, dans un état qu'on appelle un état de péché, dont nous ne sommes pécheurs. On n'apprend jamais à quelqu'un comment mentir. Je ne pense pas qu'il y ait ici à Kinshasa une faculté qui se serait spécialisée dans le mensonge. Oui ou non? Et pourtant, un jour, les gens ont menti. Je ne pense pas qu'un parent responsable puisse apprendre à son fils ou à sa fille comment mentir. Oui, il y en a toujours malheureusement, n'est-ce pas? Mais normalement, ça ne se passe pas. Et pourtant, vous et moi, un jour, nous avons menti. Voyez-vous? C'est ça. Ce n'est pas le mensonge qui fait menteur. Mais nous sommes menteurs dans notre état. Le manguier n'est pas manguier parce qu'il porte des mangues. Écoutez-moi bien. Non. Les mangues ne sont que la manifestation de la nature de l'arbre qui s'appelle manguier. Donc, il y a des saisons. J'en connais une qui aime beaucoup les mangues. C'est pourquoi j'en parle. Ouais. Donc, il y a des saisons où le manguier ne porte pas de mangue. Il n'a pas de fruits. Mais ce n'est pas pour autant qu'il cesse d'être manguier. Oui ou non? Ah. Il y a des saisons où le manguier porte peu de mangue, peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de pluie, etc. Ce n'est pas pour autant qu'il devient moins manguier. Mais il y a aussi des saisons où le manguier porte beaucoup. Ce n'est pas pour autant qu'il devient plus mangué. Donc il y a des gens dont la vie est manifeste sur le plan du péché. C'est des bagarreurs, c'est des escrocs sociaux, c'est des corrupteurs invétérés, c'est des gens corrompus. Partout ils passent, ils font des dégâts. Dès qu'ils passent quelque part, contrairement à Joseph, le fils de Jacob, qui avait un manteau bigarré, eux ils ont un manteau qui dégage l'immoralité, qui dégage la rébellion, qui dégage toutes sortes de péchés. Mais il y en a d'autres. Oh, de par leur éducation, ils ont appris toujours à saluer les gens. Ils ont appris à dire toujours merci. Ils ont appris à être bons envers tout le monde.
Ce sont des gens qui sont prêts à donner pour plusieurs causes sociales, soutenir les orphelins. Ce sont des gens qui ne tueraient même pas une mouche tellement ils sont bons. Même pour tuer un moustique, oh là là, ils doivent d'abord philosopher, mais c'est une vie qui a droit aussi de vivre, parce que si ce moustique ne boit pas mon sang, mais comment il va vivre, hein? En même temps, il dit, bon, mais s'il me pique, il va m'injecter, c'est si je vais attraper la maria, donc je vais le tuer. Donc, il y a toute une démarche philosophique. Parce qu'ils sont bons. Voyez? Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins pécheurs que les autres. Ah! Le péché est un état. Pour certains, ils portent de mauvais fruits. Au loin, on sent. Mais pour d'autres, il faut bien regarder. Oui ou non? Pour détecter telle ou telle autre chose. Mais aux yeux de Dieu, ils sont tous... Et puisqu'ils sont pécheurs, la Bible dit qu'ils sont privés de la gloire. Mais non, comment ce pécheur-là peut quitter son état et se réconcilier avec son Créateur? C'est là que la nécessité d'annoncer l'Évangile devient plus qu'indispensable. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc à cause du péché, l'homme est coupable aux yeux de Dieu. À cause du péché, l'homme est séparé de son Créateur. À cause du péché, le monde, la terre, qui au départ était un paradis, car lorsque la Bible parle de l'Éden, il ne parle pas d'une région qui se situerait quelque part dans notre galaxie. Non, 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 c'est ici sur terre. Mais au départ, le paradis était là. L'homme était en communion parfaite avec son Créateur. Mais lorsque le péché est entré, ce paradis est devenu un véritable enfer. Et depuis, le monde ressemble à une sorte de nécropole spirituelle, à un cimetière, un vaste cimetière, où il n'y a que des cadavres. Le monde ressemble à une sorte de pandémonium, où les démons, les cohortes de démons, s'adonnent à ce qu'ils aiment le plus, détruire la race humaine. L'homme est donc coupable. Comment peut-il être délivré de sa culpabilité? Eh bien, c'est en se réconciliant avec son Créateur. Or, cette réconciliation a été accomplie par Jésus à la croix de Golgotha. Aucune religion ne peut amener un homme, quel qu'il soit, à se réconcilier avec son Créateur. Car même le fondateur de la religion est pécheur. La Bible est très éloquente sur l'universalité du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si vous trouvez quelqu'un sur cette terre qu'on présente comme étant le responsable ou le représentant de Jésus, ça me va loin. Ça, c'est de la folie. C'est là qu'on voit que le péché, hein, c'est vraiment une puissance d'aveuglement. Ça montre que la personne a une intelligence obscurcie. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et... Parce que nous venons de lire, voici, a-t-il dit à ses disciples. Il n'a pas seulement dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Allez, proclamez l'évangile à toute la création. Mais il a ajouté, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc Jésus est avec nous. Alors comment veux-tu le représenter? Comment vous pouvez représenter le pasteur bon dominant? Parce qu'il est là. On ne représente que celui qui... Alors, de telles doctrines doivent être condamnées. La Bible est claire. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Nous sommes dans Romains 3, 10 à 18. La destruction, écoutez bien, et le malheur sont sur leur chemin. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et l'apôtre Paul d'ajouter, évidemment, tous sont il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque tel est l'état moral et spirituel, mes amis, de l'homme, comment alors cet homme-là peut-il quitter cet état de coupable, cet état de séparation d'avec son Créateur? Comment peut-il quitter cet état et rejoindre ce Dieu tout-puissant, qui est saint, qui est juste, qui est pur? Eh bien, humainement parlant, il n'y a pas de réponse. Aucune religion ne peut délivrer l'homme de la pesanteur du péché. Aucune religion n'est assez capable, n'est assez puissante pour libérer l'homme de ses chaînes, du pouvoir de Satan, et l'amener dans une relation vivante avec le Créateur. Aucun homme, aucun prophète. Voilà pourquoi la solution est venue du ciel. Parce que tous avaient péché. Parce qu'aucun juste, parce que tous pervertis, parce que tous corrompus, parce que tous ne craignant pas Dieu. Comment la solution pouvait-il venir de la terre? Parce que le monde entier est sous la puissance du diable. Voilà pourquoi l'évangile est venu d'en haut. C'est un message d'origine divine. C'est un message d'origine céleste. Puisque l'évangile concerne une personne qui vient d'en haut. Et seul ce qui vient d'en haut peut aider l'homme ici sur terre. L'évangile, alléluia. C'est là que l'apôtre Paul ajoutera, si tous ont péché, voyez-vous, il ajoutera, tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Celui qui a fait la rédemption à la croix, mon frère et ma sœur, tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu par tes propres efforts religieux. Tu peux passer toute ta vie dans un monastère, tu peux être pasteur, tu peux être un membre du clergé, mais tant que tu n'auras pas rencontré Jésus, aux yeux de Dieu, tu es encore pécheur. Et à cause du péché, tu es sous sa colère. La colère de Dieu, la condamnation de Dieu est sur toi, suspendue sur toi, comme l'épée de Damoclès. Comment quitter cet état? Eh bien, il n'y a pas un autre message que le message de l'Évangile. Voilà pourquoi nous devons l'annoncer. Voilà pourquoi tout homme doit entendre cela. Voilà pourquoi ce message est une bonne nouvelle. Cet homme incapable de quitter son état d'esclave, son état de coupable aux yeux de Dieu, son état d'esclave par rapport au diable, cet homme-là, il entend qu'il y a moyen. Alors, une telle nouvelle, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Jésus, gloire à Dieu. Mes amis, pas d'évangile, pas de pardon, pas de salut, pas de réconciliation avec Dieu. Donc, pas d'évangile, c'est l'enfer assuré. Vous n'avez rien à faire pour y aller. Vous restez dans l'état où vous êtes, c'est tout. Vous continuez à mentir, vous continuez à voler, vous continuez à être arrogant, à être hautain, à développer un moi de plus en plus hypertrophié. Dans cet état-là, vous n'avez pas besoin qu'on vous aide à aller en enfer. Vous êtes sur ce chemin, comme nous l'avons lu, sur le chemin de la destruction, sur le chemin de la perdition, mes amis. Et sur ce chemin, il n'y a qu'un seul qui peut t'arrêter. C'est une personne et non pas une religion. C'est celui qui est venu du ciel. C'est celui qui a marché sur cette terre. J'ai déjà eu à vous le dire, mes amis, nous avons considéré le fait qu'un homme marche sur la lune comme un des grands événements, n'est-ce pas? Moi-même, j'avais suivi ça, j'étais encore ado, c'était en 69, je crois. Eh bien, tout le monde, c'était des images formidables. Cette lune que certains ont adorée, cette lune dont on nous avait fait croire que les taches qu'on voyait là, moi, on m'a fait croire ça, hein. J'étais tout petit, j'entendais même ma mère me dire, non, ce que tu vois là, c'est Marie qui tient Jésus. Alors, tout petit, je regardais. Vous voyez, donc je vivais dans un quartier où il n'y avait pas de lumière, donc on pouvait très bien observer la lune, surtout la pleine lune. Alors je me couchais sur une natte comme ça, je regardais, je dis ça c'est Jésus, avec Marie dans ses... Enfin, Jésus dans les bras de Marie, on nous a fait croire cela. Et puis un jour la science démontre que non, il n'y a pas de vie sur la lune. Voilà, que toutes ces tâches étaient les impacts des météorites, de tout ça, tout ce que vous voulez. On a marché, tout le monde a célébré ça. Mais le plus grand événement, ce n'est pas que l'homme ait pu fouler le sol lunaire, mais le plus grand événement, c'est Dieu qui vient fouler la terre, qui marche ici-bas. Parce qu'il a marché ici-bas, moi je peux marcher au ciel. Parce qu'il a marché ici-bas, donc tout est possible pour moi. Oh, alléluia. Gloire. Vous comprenez pourquoi cet ordre d'aller prêcher l'évangile, d'aller annoncer l'évangile, eh bien, est repris non seulement dans le 4 évangiles, pour montrer son importance, pour montrer le côté impératif absolu de prêcher cette nouvelle. Les 4 évangiles reprennent cet ordre suprême, mais aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Voyez-vous ? Ne partez pas tout de suite, a dit le Seigneur, mais restez ici jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse. Car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh, alléluia! Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et enfin, je vais terminer par là. Oh là là, il y a beaucoup à dire. Vous savez, quand je parle de l'Évangile, c'est tout mon être qui s'excite. Enfin, la dernière raison, c'est que l'Évangile est la seule puissance capable de libérer l'homme de l'emprise de Satan et de ses démons. Il y a autour de nous des gens qui sont sous l'emprise des démons, des gens qui sont sous la malédiction spirituelle, des gens, mes amis, qui sont captifs de toutes sortes de liens démoniaques. Eh bien, comment libérer ces gens? Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a aucun gourou sur cette terre qui puisse avoir la capacité de libérer qui que ce soit du pouvoir des démons ou de Satan. Aucun homme. Voilà pourquoi certains commencent même à recourir à des simulations, à des mensonges. Quelqu'un meurt, on simule toute une résurrection. C'est terrible. Et puis on apprend qu'on, pour faire croire aux gens qu'on a un ministère puissant, que même les gens qui ont le sida guérissent, on leur donne de l'argent. C'est terrible, hein? On n'a pas besoin de tout faire. C'est la preuve que Jésus n'est pas avec nous. C'est la preuve que nous ne sommes pas avec lui. Parce qu'être avec Jésus veut dire marcher dans la vérité. Marcher dans la transparence. Être avec Jésus veut dire mener une vie d'obéissance. Comment on peut avoir cette intelligence, mes amis, de mettre sur pied une arnaque comme celle-là? Dites-moi, c'est incroyable, hein? Et pourtant, les gens le font. Oh, il n'y a que Jésus. Jean a dit, Jean l'apôtre, hein, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous qui sommes en Christ, nous sommes de Dieu, il ajoute. Et que le monde entier est au pouvoir de Satan. Le monde entier est influencé par les puissances démoniaques. Vous n'avez pas besoin de crier aux démons pour qu'ils viennent. C'est vrai, il y a des domaines où lorsqu'on on y entre, eh bien, on a un face-à-face avec Satan. C'est la magie, c'est l'occultisme, n'est-ce pas? Mais sinon, comme ça, les démons viennent. Quand une maison est vide, il faut l'occuper. Vous connaissez cette loi de la nature. La nature a horreur du vide. Eh bien, le monde spirituel aussi. Si Dieu n'habite pas une vie, c'est l'autre. L'autre petit A qui va l'habiter, n'est-ce pas? Jésus seul délivre des démons. Oh, alléluia! Seul l'Évangile peut briser et anéantir la puissance mortifère du diable. Voilà pourquoi lorsque Jésus appelait le 12, nous l'avons lu hier, Matthieu 10, quand il a appelé ses 12, il leur a demandé d'aller prêcher. Ensuite, la Bible nous dit, il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, mais aussi de chasser les démons. Oh, au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur du diable. Celui qui est en toi est tout puissant. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui agit dans le monde. Alors, mon frère et ma sœur, mène une vie de sainteté pour être à l'abri des attaques démoniaques. Et quand bien même l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de Dieu ferait quoi? Le mettrait en déroute, alléluia. un homme avec Dieu. Je dis bien, un homme avec Dieu, c'est plus que tout le ciel avec lui. Car lorsque Jésus est avec nous, nous n'avons plus rien à craindre. Il a vaincu à la croix. Voilà pourquoi au cœur de l'évangile, il y a la personne de Jésus, mais il y a aussi l'œuvre de la croix. Nous serons au ciel parce qu'un jour le Fils de Dieu a donné sa vie à Golgotha. Nous avons la victoire sur le diable parce qu'un jour le Fils de Dieu l'a écrasé à la croix. Nous aurons nos noms inscrits en lettres d'or dans le livre de l'agneau parce qu'un jour le sang de l'agneau de Dieu a coulé. Je reviens à ce que je disais hier. Le ciel tout entier sera un monument vivant et éternel, mes amis, à la gloire et à la louange de la victoire du Christ à la croix de Golgotha. Même au ciel, nous nous rappellerons de la croix, car ces marques des clous ne se sont pas effacées. Il les a laissées exprès pour nous rappeler, nous les hommes, que si nous sommes au ciel, ce n'est pas parce que nous aurons prêché l'évangile, mais parce qu'un jour, il nous aura fait la grâce de croire en lui. Oh, alléluia! Nous allons nous arrêter là, dans ce monde en perdition, dans ce monde manipulé par les puissances démoniaques, dans ce monde où il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont sous l'emprise des démons, sous l'emprise des esprits mauvais, dans ce monde qui ressemble à une sorte de pétaudière spirituelle, à une sorte de Capharnaüm du crime, de l'immoralité, de l'idolâtrie, de l'occultisme, de la fausse religion, dans un monde pareil, comment faire pour sauver les perdus? C'est en allant et en leur jetant la bouée de secours. Cette bouée-là n'est pas une religion. Cette bouée-là, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, mon frère et ma sœur, ne crains rien. Celui qui est en toi est tout puissant. Annonce ces messages à toute ta famille. Ne cède pas à la tentation que certains membres de ta famille chercheraient par rapport à toi en voulant t'entraîner dans la consultation des magiciens. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui est arrivé de Bandundu. Il a une grande puissance. Dites à la personne, il vient d'où? De Bandundu. Mais moi j'ai un qui vient du ciel. Voilà. Oh non, c'est un grand gourou qui vient d'Inde. Voyez-vous, lui il peut s'asseoir pendant 2 ou 3 semaines, c'est démoniaque. Avec le diable, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'effacer. Eh bien, je m'en fiche. C'est un malheureux. J'ai cru en Jésus. Vous avez la victoire. Vous avez un message puissant pour changer la nature morale de la ville de Kinshasa. Nous avons un message pour détrôner l'entité spirituelle qui domine notre ville, pour faire abattre ces baobabs spirituels que le diable a fait pousser dans nos communes pour empêcher aux gens de s'épanouir. Nous avons cette puissance. Cette puissance est dans une personne. Et cette personne est dans l'évangile. Jésus de Nazareth. Et je voudrais que nous l'acclamions très fort. Jésus, rien que l'évangile, alors l'annonçons-le. Ne privons pas les gens, mes amis, du salut. Si nous ne parlons pas, eh bien, comme nous le verrons demain très brièvement, nous nous comporterions en criminels. Puisque nous le verrons, l'évangile est le seul remède dont l'homme a besoin par rapport à la maladie qui le détruit, à savoir le péché. Alors si vous ne proposez pas le remède, alors que vous savez très bien que c'est le seul remède qui puisse sauver la personne, vous priverez la personne de ce remède et par conséquent la personne mourra dans ses péchés. Et la Bible nous dit « Dieu te demandera de compte ». Alors, aujourd'hui même en repartant, demain au travail, essaye par tous les moyens de parler de Jésus à vos collègues. Essaye d'amener des gens à l'église parce que Jésus les aime. Amen. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Mais avant ça, on m'a signalé qu'il y a des personnes qui arrivent alors qu'on a déjà fait passer les offrandes. et qui sont repartis hier avec leur argent, eh bien, sachez qu'il y a des paniers qui sont là où vous pouvez déposer votre offrande avant de repartir. Ça va? Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Père et notre Dieu, pour avoir béni cette deuxième soirée, pour nous avoir montré, Seigneur, ces quelques raisons qui doivent nous pousser à prêcher la bonne nouvelle, à prêcher cet évangile, le seul message libérateur, le seul message qui concerne l'homme dans sa totalité, corps, âme et esprit. Seigneur, aide-nous à être de vrais témoins, à parler de toi partout, Seigneur, à sauver un plus grand nombre, à piller l'enfer, à causer un grand dévaste dans le royaume des ténèbres pour enrichir le ciel. Oui, bénis chacun de nous. Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de ce message, repars avec nous, garde-nous fidèles à toi et ramène-nous demain pour la dernière soirée. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le nom du Seigneur.